Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Mardi 2 décembre 2025, il est 6h avant minuit. Merci d'écouter l'émission d'info locale de Syllab sur Syllab à Rennes, mais aussi sur Radio Boa, dans tout le reste de la Bretagne. Un petit mot aujourd'hui pour vous dire que pour la dernière de 6h avant minuit de l'année, nous faisons appel à votre générosité. Notre émission organise une collecte de Noël au bénéfice de deux assos rennaises qui ont besoin de vous. D'un côté, Cœur Résistant, association de lutte contre la précarité et de promotion de l'inclusion sociale, qui propose notamment un soutien alimentaire aux personnes en situation de précarité en toute impartialité et sans discrimination. De l'autre, ISKIS, centre LGBTI+ de Rennes, qui défend des valeurs de respect des différences dans la diversité des sexualités, des identités de genre et des sexes, et qui accueille toute personne LGBTI+ en difficulté, quelle qu'elle soit. Ces deux assos donc ont besoin de café moulu, de thé, de sucre, lait, chocolat en poudre, mais aussi de sous-vêtements et de vêtements chauds, surtout pour les hommes en ce qui concerne Cœur Résistant, ainsi que de couvertures et d'oreillers. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi donner des boissons ou aliments festifs pour le repas de Noël et le réveillon organisé par ISKIS pour ses bénéficiaires, ou encore offrir de quoi cuisiner les repas chauds servis en maraude par Cœur Résistant, à savoir huile végétale, sel, épices, farine, pâtes, riz, biscuits, tout ça, tout ça. Pour donner, rendez-vous dans nos locaux entre 10h et 18h en semaine. On se trouve sur le campus Villejean de l'Université Rennes 2, au deuxième étage du bâtiment EREV. La récolte sera transmise aux assos lors de leur passage en studio dans notre émission du jeudi 18 décembre. Merci par avance pour votre générosité. Tout de suite, le flash de Roman.
Deux versions s'opposent à propos de la ville stratégique de Pokrovsk, située au Donbass en Ukraine. Moscou affirme l'avoir prise hier soir. Le Kremlin avance pour preuve une vidéo où l'on voit des soldats hisser un drapeau russe, mais Kiev dément et parle d'une mise en scène, en assurant que les combats se poursuivent toujours dans la ville. Pour l'armée ukrainienne, les Russes ont simplement planté un drapeau avant de s'enfuir précipitamment. Cette décision survient dans un timing qui interroge, alors que Vladimir Poutine et l'émissaire spécial Steve Witkoff se rencontrent aujourd'hui et que les négociations autour du texte américain se poursuivent. Pendant que la guerre continue de faire rage en Europe, l'Asie fait face à une autre urgence. Le Sri Lanka lance un appel à l'aide internationale après le passage du cyclone Ditwa. Des coulées de boue et des pluies torrentielles ont ravagé l'île entière. Aujourd'hui, le dernier décompte est tombé. 410 morts, plus de 300 disparus et un bilan qui pourrait encore grimper. Un tiers des habitants et des habitantes est privé d'eau et d'électricité et 15 000 maisons ont été détruites. Le président Anurakumara Dissanayake a déclaré l'état d'urgence et déployé l'armée, parlant de la catastrophe naturelle la plus difficile de l'histoire du pays. La liberté de presse est une nouvelle fois remise en cause. Aujourd'hui, la Fédération internationale des journalistes et le Syndicat national des journalistes ont déposé une plainte contre X auprès du parquet national antiterroriste français. Ils dénoncent à la fois une entrave à la liberté de la presse et ce qu'ils qualifient de crime de guerre visant des journalistes français à Gaza et en Cisjordanie. Estelle a analysé cette plainte.
La plainte, longue de 100 pages, a été rendue publique ce matin par France Info. Elle a été déposée la semaine dernière auprès du parquet national antiterroriste de Paris. Elle est portée par le SNJ, principal syndicat de journalistes en France, et par la FIJ, basée à Bruxelles. Cette plainte, portée contre X, vise en réalité les autorités israéliennes, unités militaires, forces de police, services douaniers et administratifs, mais aussi certains colons. Les syndicats dénoncent l'empêchement des journalistes françaises et français à couvrir la guerre à Gaza. Selon eux, certains estiment que ces faits pourraient constituer des crimes de guerre. Le parquet national antiterroriste peut donc être amené à inspecter dès lors qu'il concerne des ressortissants françaises et français.
Et qu'est-ce qui est au cœur de cette plainte, Estelle ?
Les principes fondamentaux de la liberté d'informer ne sont plus respectés à Gaza et en Cisjordanie. À travers cette plainte, les syndicats veulent mettre fin aux entraves du travail des journalistes. Ils dénoncent ce qu'ils appellent le « verrouillage médiatique de Gaza ». Depuis le 7 octobre 2023 et les attaques du Hamas, aucun journaliste n'a pu entrer librement dans l'enclave. Les demandes des journalistes français et étrangers restent sans réponse et sont souvent rejetées, même pendant les cessez-le-feu. La plainte s'appuie sur le droit européen, notamment l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que sur l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle mentionne également le délit d'entrave à l'exercice du journalisme prévu par le Code pénal français à l'article 431-1.
Comme le souligne la plainte, il s'agit d'un blackout inédit dans un conflit d'armée.
En effet, Louise El-Yafi, l'une des avocates ayant rédigé la plainte, a même comparé la situation avec d'autres terrains en guerre. Elle déclare, dans d'autres zones de conflit, comme l'Ukraine, la Syrie ou l'Irak, l'accès peut être difficile, mais jamais totalement fermé. Les autorités israéliennes empêchent les journalistes français et étrangers d'entrer librement dans l'enclave palestinienne. Seule une poignée de reporters a pu passer en accompagnant leurs troupes. Dans ce cas, l'armée choisit les lieux, les interlocuteurs et les conditions. Dans ce cadre, impossible de produire un reportage libre et indépendant. De plus, la capacité d'action des journalistes se réduit également en Cisjordanie.
Et cette plainte est étayée par des témoignages, c'est bien ça ?
Tout à fait. Dans ces témoignages, les journalistes dénoncent les conditions de travail. Ils et elles décrivent un quotidien marqué par des refus d'accès, des contrôles, des menaces, la saisie de leur matériel, des fouilles, des interrogatoires et parfois même une véritable chasse à l'homme. Un journaliste français qui a souhaité rester anonyme a lui aussi porté plainte. Il dénonce son agression par des colons lors d'un reportage dans les territoires occupés. La Fédération internationale des journalistes a authentifié 225 meurtres. Reporters sans frontières, lui, dénombre plus de 210 reporters tués depuis le début des opérations militaires israéliennes. Vanessa Ripoche et Julien Fleury, secrétaires généraux du SNJ, rappellent que les journalistes peinent à être reconnus comme des observateurs. Ils sont souvent assimilés à des activistes, voire à des terroristes.
Et pourquoi cette plainte est-elle inédite ?
Inès Davo et Louise El-Yafi, les avocates de la FIJ et du SNJ, affirment « C'est la première fois qu'une action judiciaire de cette nature est engagée devant une juridiction nationale pour protéger des reporters français en zone de conflit. La justice française peut être saisie parce que des journalistes français sont concernés et que les atteintes ont lieu dans des territoires occupés. À noter également que ce n'est pas la première plainte liée à ce conflit. D'autres visent des soldats franco-israéliens d'une unité d'élite de l'armée israélienne et une autre, l'entreprise française d'armement Eurolink, accusée de complicité. À la suite de certaines plaintes, le parquet national antiterroriste a demandé l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre, notamment sur le bombardement qui a coûté la vie à deux enfants français en octobre 2023.
Cette plainte marque un pas inédit en France. Le parquet national antiterroriste devra maintenant décider s'il ouvre une enquête sur ses entraves et possibles crimes de guerre à Gaza et en Cisjordanie. En France, l'État se fait taper sur les doigts par le tribunal administratif de Paris. Le ministère de l'Éducation nationale est reconnu coupable de carences fautives. Il n'aurait pas assuré pendant plus de 20 ans l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, une obligation pourtant prévue par une loi de 2001 et qui prévoit au moins 3 séances annuelles. 17% des 15-24 ans déclarent n'avoir jamais bénéficié d'une seule séance lors de leur scolarité, selon un sondage IFOP. Ce programme concerne notamment le respect du corps, l'égalité femmes-hommes et la prévention des violences sexistes et sexuelles. Le tribunal reconnaît ses manquements mais juge la situation réglée grâce au nouveau programme EVAR, appliqué depuis la rentrée 2025. L'État échappe donc à une injonction. Les associations qui ont attaqué l'État, le planning familial, SIDAction et SOS Homophobie, avaient plaidé des difficultés d'application persistantes ces derniers mois. Jetez un œil dans vos armoires à pharmacie, certains médicaments sont à éviter selon prescrire. La revue médicale indépendante a publié hier son nouveau bilan des médicaments à écarter. Plus d'une centaine de traitements y sont jugés plus risqués qu'utiles. Parmi eux, le Smecta, suspecté de contenir du plomb. 4 nouveaux arrivants dans cette liste noire. Le Fezolinetan, censé réduire les bouffées de chaleur de la ménopause, il pourrait provoquer de graves hépatites. Le Gefapixant, qui expose à des troubles du goût et à des pneumonies. Et sont aussi pointés du doigt le chondroïtine, un produit pour l'arthrose pouvant déclencher des réactions allergiques, et l'andexanet alpha, un antidote des anticoagulants visé pour un risque accru d'accident pulmonaire. Le Carrefour d'Alma va-t-il fermer ses portes ? La société gérant l'enseigne Carrefour du centre commercial au sud de Rennes est placée en redressement judiciaire. Le groupe breton Pont du Bois a 6 mois pour proposer une solution au tribunal de commerce de Rennes. En attendant, l'incertitude plane pour les 240 salariés. Ils et elles ignorent encore si l'enseigne pourra être reprise ou si elle devra fermer ses portes. Ils et elles n'ont d'ailleurs pas reçu leur paye de novembre. Cet hypermarché est l'un des plus grands de Bretagne avec 10 000 mètres carrés de rayon. Et la santé mentale, on en parle. C'est le nom de l'événement organisé par l'Université de Rennes. 2 jours pour parler de la santé mentale et du bien-être étudiant. Au programme, la projection de 10 capsules documentaires et 7 portraits d'étudiants et d'étudiantes témoignant de leurs troubles, de leur addiction ou de leur pathologie. On retrouve aussi des tables rondes et une exposition. Ça se passe demain et jeudi au Diapason. C'est gratuit, mais attention, il faut réserver sa place. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de l'Université de Rennes. Un cirque pas comme les autres. Jusqu'à la fin de la semaine, le cirque Plaisir est installé à Romillet avec son spectacle Mâche-Fer, un show pour les petits et les grands. Mais alors, Lola et Romain, c'est quoi ce cirque Plaisir ?
C'est le meilleur spectacle de mon année, j'ai adoré. Allez-y.
Et encore un petit loupi loupi.
Alors le cirque plaisir c'est quoi? Rassurez-vous, hein, pas d'animaux, pas de blagues graveleuses, c'est tout simplement un mélange entre un concert digne des transmusicales et de la voltige.
Leur chapiteau est installé jusqu'à dimanche à Romillet, nous sommes allés les voir pour découvrir leur univers.
Moi c'est Aurel, je fais un numéro de cadre avec une voltigeuse, Maëva. Je la lance dans les airs et je la rattrape dans les airs, idéalement.
Ça se passe bien.
Ça se passe bien, ouais ouais.
Salut Myrto.
Salut.
Moi je suis la technicienne son. Et je fais aussi un petit peu de flûte au début du spectacle. Et après, un peu tout, comme tout le monde.
Mais alors, monter tout ce spectacle en autoproduction, comment ça marche? On est allé demander au fondateur du projet. C'est quoi ton prénom?
Lison. Moi, je fais la régie lumière et je fais aussi un peu de musique. Nous, on a été 3-4 à monter le projet pendant le confinement. On a fait les plans du chapiteau. Au début, on a un petit peu galéré, mais maintenant, on se fait vivre 13 personnes ensemble à l'année. On est tous intermittents du spectacle. Nous, on parle du cirque. Je pense qu'on essaye, par le spectacle, de faire transpirer un peu ce qu'on vit, parce que c'est un projet de vie, c'est pas juste un spectacle. On vit autour du chapiteau toute l'année, on voyage avec ça, on vit de ça. Et du coup, je pense qu'on essaye de faire transpirer ça par le spectacle en faisant du cirque, parce que c'est du cirque.
Il faut s'adresser à Eloane.
Pour parler de la dramaturgie du spectacle.
C'est un spectacle qui reprend les codes du cirque traditionnel, mais en y insérant beaucoup d'humour, beaucoup de nouveautés, beaucoup de poésie, et d'aller essayer de chercher le spectateur qui peut encore coller sur le mot cirque une image un peu poussiéreuse, de le surprendre, de le prendre un petit peu par le côté, comme ça, lui dire regarde bien où est-ce qu'on peut t'emmener, et puis pourquoi pas jusqu'à l'émotion et pourquoi pas les larmes. On sent aussi bien qu'il y a un gros problème dans le monde de la culture aujourd'hui, avec des possibilités d'action qui sont de plus en plus réduites, et pour nous, le fait de revenir à un outil itinérant, mobile et indépendant, en faisant de l'autoproduction, c'était le meilleur moyen de retrouver notre liberté. On a tout fait en autofinancement à la base, et l'économie de la compagnie tient à 90% sur les recettes engrangées par le spectacle, quoi.
Le cirque Plaisir, c'est jusqu'à dimanche à Romillet, parking du Prévert. C'est 15€ l'entrée ou 10€ en tarif réduit et pour les enfants. Restauration sur place, pensez à réserver par mail ou par téléphone. Attention, il ne reste plus beaucoup de place.
Merci Romane, c'est la fin de ton flash. On te retrouve mardi prochain pour un nouveau et on passe à l'interview.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Le micro à l'Afghan et à son invité.
Et sur le plateau, déjà, est-ce que vous savez ce qu'on préfère à Rennes ?
La musique.
La musique et les bars.
Ouais,
les
aussi.
Bars et la musique.
Les
ce
bières.
Soir, on parle de la 29e édition des bars en transe à Rennes, du 4 au 6 décembre. Pulcarart gris, lunettes noires et Casio étincelantes, il est en plein dans la mode. Nous recevons aujourd'hui Philippe Le Breton, programmateur des bars en transe. Bonsoir.
Bonsoir.
des concerts dans les bars en même temps que les trans musicales. Est-ce que pour commencer, Philippe Le Breton, vous pourriez nous présenter les bars en trans? C'est quoi le concept?
Alors le concept, c'est d'abord, ça avait été d'organiser des concerts dans des bistrots. Rennes était une ville de café-concerts, vraiment, il y en avait beaucoup. Moi, à la sortie de la fac, quand j'étais ici à Rennes 2, on allait à des concerts dès le lundi soir. Il y avait une quarantaine de lieux qui faisaient des concerts. Alors, c'était pas tous faisaient pas des concerts tous les soirs, mais en tout cas, ils se répartissaient la tâche toute la semaine. Et puis, il y a aussi les trans musicales qui organisaient les apéros trans quelques années avant. Donc, c'était autour de la salle de la Cité. Il y avait la scène, on va dire, internationale et puis nationale qui jouait à la salle de la Cité, la scène régionale et un peu plus large jouait rue de Saint-Malo, rue de Saint-Michel, dans des bistrots de 18h à 20h, ça s'appelait les apéros trans. Et puis Bistroc Café, l'association qui a géré ces 40 cafés concerts, a développé un agenda à l'époque et puis a commencé à organiser Bar en Trans au début des années 90. Et aujourd'hui, nous on fait ça depuis 96, notre association. Et l'idée, c'est de présenter des jeunes pousses, une scène émergente, pendant que les trans présente aussi des jeunes pousses françaises, mais beaucoup de choses qui sont internationales. Nous, on essaye de présenter la scène francophone avec des Belges, des Suisses, des Canadiens, des Québécois, et puis toute une scène française émergente dans toutes les esthétiques.
Et pour cette 29e édition, les bars en trans s'invitent dans une dizaine de bars rennais, c'est ça?
Ouais.
Et c'est lesquels ces bars rennais?
Alors, les bars rennais, oulala, voilà, ailleurs, je le dis, c'est l'Amrock, le Bloom Pomp, qui est un nouveau lieu qui à la Courrouze, la Cavale, Désordre, la Place, la Tête de Chou, le Penylène et le Tiana. Et puis, autrement, on a quelques autres lieux, parce que Bar en Trans a évolué aussi. Donc on a la salle de la Cité qui nous a été proposée par la ville de Rennes il y a quelques années, parce que c'est une salle qui est mythique et qui avait la ville de Rennes voulait absolument que pendant les trans musicales on y présente du spectacle. Et puis on a aussi un public et des écoutes qui ont un peu changé. On a un public qui est un peu plus vieillissant, qui a envie de s'installer dans un théâtre, le théâtre de la Parcheminerie, à la chapelle du conservatoire, avec des musiques où il y a besoin un peu plus d'écoute que dans un pub. Donc voilà, c'est aussi l'idée de faire une programmation très large. On a fait une époque du spectacle jeune public à la Parcheminerie. Aujourd'hui, on fait beaucoup de la chanson folk, voilà, des choses qui s'écoutent un peu plus que dans un bistrot.
Et justement, parlons de cette programmation, parlons des artistes que vous recevez cette année. Sur le site de l'Office du Tourisme, je lis 95 groupes musicaux en 3 jours. 95, c'est énorme. On n'aura jamais le temps de toutes et tous les énumérer, mais peut-être que vous pourriez déjà nous présenter quelques artistes phares de cette 29e édition des Bars en Trans.
Alors, on a la chance d'accueillir dès le premier jour Astral Baker. Alors, pour le coup, c'est pas émergent, c'est un groupe qui est un peu... C'est 4 personnes qui jouent aussi dans nos groupes ou qui ont des projets solo. Certains, même 3 ou 4, ont déjà joué avec leur projet sur Bars en Trans. Et Astral Baker, c'est le deuxième album, mais ça va être la soirée, notre première soirée d'ouverture qui sera la salle de la Cité. Après, moi, j'ai un gros coup de cœur, c'est Persephone, une artiste qui a été un peu découverte sur les réseaux sociaux, mais qui va jouer à la Parcheminerie. C'est vraiment, à mon avis, dans 3-4 ans, une des artistes qui sera vraiment... qui a pour moi un gros potentiel. Et puis, il y a une fille que j'adore aussi, qui me fait penser à Amy Winehouse, qui s'appelle Roxane, qui jouera aussi à la Parcheminerie. Et puis dans le côté un peu plus électropunk, j'adore aussi un groupe qui s'appelle Nord Noir. C'est des gens qui viennent de Calais. Tout à l'heure, on parlait justement, vous parliez d'association. Voilà, nous, on va faire un partenariat avec Utopia 56. Eux, ils viennent de Calais. Ça fait quand ils sont nés, et puis depuis quelques années, ils subissent cette violence de l'État français contre les migrants. Et donc eux, c'est vraiment, ils sont vraiment inspirés à la fois de la culture, on va dire, la culture nordiste du carnaval, leur iconographie, c'est des grosses têtes de carnaval. Et puis en même temps, ils ont un gros message très très sociétal. Voilà, pour eux, ils ont l'impression que Calais vit dans un no man's land. À 70 km, il y a des barbelés, voilà, ce que les gens ne savent pas. Et puis il y a la police qui est là tous les jours.
Et pour continuer, je vous propose, histoire de teaser un peu cette édition 2025, d'écouter quelques artistes qui seront dans les bars de Rennes cette semaine. Commençons avec Don Dias et sa pop DIY Made in Rennes.
Tu sais que
et venu de Marseille, le groupe La Flemme et sa Garage Pop. Le projet musical indie rock Dream Pop Requin Chagrin. Je ne remarque pas le ciel. Entre toi et moi. Celui-là, il est pour Héloïse, Bardix le Gaulois et son irréductible techno-gauloise.
Et des champignons à ne plus savoir quoi en faire. Et savez-vous ce que l'on fait lorsque la terre nous gâte autant?
On tape du pied, Gaulois.
Et enfin, le chanteur d'indie rock engagé MDNS. Les styles sont variés, voire complètement opposés pour certains. On a de tout dans cette prog 2025. Comment vous choisissez vos artistes chaque année? Quels sont les critères, entre gros guillemets, pour performer au Bar en Transe?
Les critères, c'est d'être vraiment émergent. Hein. Voilà, de pas être connu, pas trop connu encore à Rennes. Parce que l'idée, c'est de regrouper un peu tout ce qui est en devenir pendant cette période. Et puis aussi des artistes qui ont... Voilà, où j'ai pu écouter certains artistes, ça fait 3 ans que je les écoute et que maintenant ils sont, on va dire, un peu matures pour pouvoir jouer ici. Parce que c'est compliqué de jouer devant un public dans un bistrot. Donc voilà, ça passe ou ça casse. Et puis aussi avoir un peu de bouteille question live. Parce que si tu n'as pas fait de concert, bah, ça peut être un peu compliqué sur ton premier concert. Voilà, donc qu'ils aient au moins une dizaine de rooks. Et puis, moi, la base de la programmation, c'est je m'inspire des lieux. Donc, c'est les lieux qui font que le Penylène, évidemment, j'aime bien casser les codes hein, de temps en temps. Là, il y a un truc qui va être électro au Penylène. Mais pour moi, c'est toujours dans la programmation Bar en Transe, même s'ils font autre chose à l'année, c'est l'ambiance pub à l'anglaise. Et donc, c'est du rock. Voilà. Et à la parchemainerie, on va être plus sur de la folk, sur de la chanson pure. Et à la chapelle du conservatoire, on va être pure chanson, avec Alma Reichmann, où on fait une créa cette année.
Et donc, local, ouverture, peut-être une graine d'excentricité, mais surtout une nouveauté, j'ai l'impression, underground, c'est des valeurs importantes dans la programmation.
Voilà, c'est un peu, le mot n'est pas très joli, mais c'est un peu l'air du temps aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est de m'inspirer de ce qui se passe, de regarder... Voilà, je suis hyper content qu'on ait fait OK Lou il y a une dizaine d'années, qui explose aujourd'hui, mais elle inventait quelque chose de révolutionnaire avec l'hyperpop, et avec à s'imprégner de codes électro comme rap, comme très pop international. Et puis là, cette année, il y a quand même beaucoup de groupes qui ressemblent un peu dans les esthétiques à des groupes des années 80 que j'écoutais, parce qu'on est à... Là, tous les groupes électropunk, beaucoup de groupes chantent en français et chantent en français façon un peu alternatif 80. Et je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait ce renouveau. Et c'est un renouveau avec aujourd'hui, c'est dans l'esthétique de l'époque, mais avec la petite pointe d'aujourd'hui qui m'intéresse, mélanger à la fois de l'électro, de la techno, de l'hyperpop. Et du rap, il y a plein de gens qui mélangent tout, donc je trouve ça, tu vois, tu parlais d'MDNS, c'est un côté métal, il y a un côté comme Théa l'année dernière avec tous les codes du métal, mais en même temps il y a un côté ultra punk. Voilà.
Et ils ont d'ailleurs sorti un feat là récemment.
Ouais.
Et justement, en parlant de nouveautés, écoutons une voix que personne n'a ratée cet été. Ce Soleil Bleu de Louisa, une artiste rennaise. Comme Big Flo et Oli, elle est passée par les bars en trance. Est-ce que c'est ça aussi, les bars en trance, c'est donner l'occasion aux jeunes talents de se projeter ensuite sur la scène?
C'est exactement ça. Alors pour le coup, moi j'ai écouté des maquettes et elle avait fait plein de feats avec, parce qu'elle est d'origine, ses origines sont brésiliennes, elle a fait plein de feats au Brésil et puis elle avait... elle avait un style très brésilien, très, aussi très reggae, musique du monde. Mais là, du coup, au départ, je me souviens de plein de gens qui me disaient « Mais ce truc, c'est, ça n'a pas fonctionné du tout, quoi. Ça ne marche pas. » Et puis en fait, moi, je disais « Si, 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 vous allez voir, elle est très inspirée. » Et après, il va falloir... voilà, elle a trouvé une belle production. Et puis finalement, elle a trouvé son style. Et puis c'est plutôt quelqu'un d'attachant. Et c'est cool que... quelqu'un qui fait de la musique depuis une dizaine d'années puisse avoir une réussite.
Et le côté local, il joue un rôle important. Est-ce qu'il y a un pourcentage d'artistes locaux au bar?
Franchement, s'il n'y a pas la qualité, il n'y a pas d'artistes locaux. Mais on a eu la chance d'avoir beaucoup de groupes à Rennes. Donc il y a toujours cette scène rennaise. Bon, c'était une scène pop à une période, avec, et puis une grosse scène garage. Mais voilà, on a aussi la scène rap. Il y a plein de groupes de rap qui viennent de Rennes. Théodora a vécu à Rennes, par exemple. Donc voilà, il se passe des choses. Et puis en Bretagne, il se passe beaucoup de choses. Là, il y a Ne rangez pas les jardins qui vient de Saint-Brieuc, qui fait un truc à la Diabologum qui est juste magnifique. Voilà, on a, cette année, on a une quinzaine de groupes, je crois, à peu près, ou une douzaine de groupes qui viennent. Il y a Iris 2000 aussi qui est rennaise. Voilà, donc je peux en parler. Ben voilà, c'est vraiment une année assez forte sur la programmation en artistes locaux. Et je parle même pas de Nantes et des Pays de Loire, parce que du coup, là, pour le coup, on est quasiment à 20% de la programmation. Mais oui, oui, ça, il y a un gros renouveau, c'est ça qui est intéressant.
Un gros renouveau artistique. Mais là, pour finir, parlons de ce qui peut fâcher côté culturel. Récemment, le festival I'm from Rennes a annoncé un déficit de 40 000 euros. En Bretagne ou dans le reste du pays, la culture ne va pas nécessairement mieux. Comment les bars en trans gèrent le budget, l'organisation, les coûts dans la France à Macron, comme on dit?
Eh bien, nous, on est des artisans depuis longtemps. On est déjà DIY depuis très longtemps. Donc, on n'a jamais eu des grosses subventions. Donc, on s'est toujours débrouillé. Il faut savoir qu'on travaille beaucoup plus l'équipe que le budget nous le permet. Donc on est aussi beaucoup bénévole, on travaille avec beaucoup de bénévoles, et puis on a la chance quand même que la structuration, un peu comme au cinéma, on a de plus en plus un retour très positif sur le fait qu'on soit un palier, une marche pour l'émergence. Et donc la SACEM, l'ADAMI qui nous aident beaucoup, et le CNM sur ce côté émergence, parce qu'on prend des risques. Et donc eux nous aident beaucoup. La ville de Rennes nous aide aussi un peu. On a perdu, comme beaucoup, la subvention du Conseil Général, ce qui fait que ça fait deux soirées qui ont disparu. Donc voilà, mais après on se débrouille aussi, on va chercher un peu de privé, on va chercher des choses. Mais c'est un festival qui doit remplir pour pouvoir se gérer, en fait. Comme tout à l'heure quand on écoutait le Cirque du Plaisir, c'est ça, Cirque du Plaisir ou ouais. Des Plaisirs, je ne sais plus. Ça.
Cirque Plaisir.
Cirque le Plaisir, pardon. Et ben, c'est la billetterie quand même qui fournit, et puis les passe-pro qui fournissent quand même une partie du budget et des recettes.
Et ben, on vous invite toutes et tous à aller chercher vos billets. Merci beaucoup pour ce temps d'échange, Philippe Le Breton.
Merci à vous.
Pour rappel, vous êtes le programmateur des Bars en Trance. Côté info, tout est à retrouver sur le site des Bars en Trance. 95 groupes, une dizaine de lieux rennais et beaucoup, beaucoup de styles musicaux. Les Bars en Trance, c'est de jeudi à samedi. Bonne soirée.
Et il reste toujours de la... C'est jamais complet, il reste toujours de la place. Vous pouvez vous pointer devant chaque lieu.
Le message est passé, puis j'en profite pour dire, pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur les Bars en Trance, que vous avez été interviewé dans le dernier épisode de Flux, l'émission qui est diffusée de 19h à... De 18h à 19h le vendredi. Ouh, j'ai failli me tromper. Et le dernier podcast est réécoutable sur notre site internet. Merci beaucoup.
6h avant minuit.
C'est mardi, c'est Chronique Fake News. Et ce soir, c'est avec Lafken. On t'écoute.
À la manière de Donald Trump, Emmanuel Macron part à la chasse aux fake news. Une prise de position qui ne plaît ni aux médias Bolloré, ni à la droite française. Récapitulons. Vendredi, Emmanuel Macron était à Mirecourt dans les Vosges, face au public du groupe de presse Ebra. Il y a annoncé vouloir instaurer une action judiciaire en différé contre les fausses informations. Pour lui, les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la désinformation et nuisent donc à la démocratie. Sur Internet, le cyberharcèlement ne diminue pas. Pire, l'intelligence artificielle pourrait l'aggraver. Cependant, chez Emmanuel Macron, chasser les fake news pourrait aussi être synonyme de vendetta. Il y a quelques semaines, son épouse Brigitte Macron connaissait une vague de cyberviolence à fond de transphobie sur Internet.
On t'excuse. Reprends ton souffle.
Pour le chef d'État, on est totalement démunis, c'est-à-dire que ça prend un temps fou, ça continue, les gens le voient, il y a des fadas pour penser que c'est vrai, et puis ça, ça vous mine. Vendredi, Emmanuel Macron a donc plaidé un système qui forcerait les cyberharceleurs à fermer leurs publications désinformatives. Ça s'appelle un référé et ça existe déjà. En politique, par exemple, on signale un contenu qui pourrait jouer sur les scrutins et un ou une juge décide en 48 heures si la plateforme doit supprimer le contenu ou non. Problème, cette annonce présidentielle a fait scandale à droite de l'hémicycle, mais aussi dans les largement condamnés médias Bolloré. Ce week-end, le journal du dimanche, propriété du milliardaire Vincent Bolloré, a reproché à Emmanuel Macron une dérive totalitaire. Pour le journal ultra-conservateur, le président veut mettre au pas tous ceux qui ne pensent pas comme lui, en créant un ministère de la vérité. Dans la foulée, les autres médias du milliardaire, Europe 1 et CNews, ont relayé les mêmes opinions. Invité sur CNews dimanche, Jordan Bardella a décrit le président comme seul et autoritaire. Aujourd'hui, Marine Le Pen s'est exprimée sur BFM TV. Pour la chef du RN, il serait dangereux de créer un label médiatique pour attester de sa vérité. De plus, Marine Le Pen a défendu que les chaînes privées devraient avoir le droit de ne pas être neutres et que l'ARCOM ne devrait donc pas surveiller ces chaînes privées. Hier, Bruno Retailleau a de son côté lancé une pétition contre la création de cette justice anti-fake news qu'il qualifie de doxa progressiste. Bref, politique de droite et médias privés étaient en ébullition, mais débunkons. Il n'a jamais été question d'un label, mais bien d'un référé, ce qui existe déjà comme nous l'avons vu précédemment. Sur X, hier, l'Élysée a déploré que parler de lutte contre la désinformation suscite la désinformation. En fait, cette idée de label vient plutôt des états généraux de l'information en 2024, où les médias cherchaient un moyen de renforcer la confiance du public. Une labellisation que des groupes comme Reporters sans frontières défendent. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron l'a répété, aucun ministère de la vérité, aucun label de presse. Alors que les États-Unis sont en pleine ère du free speech et que les discours haineux et discriminants montent en puissance, cette micro-affaire montre comment une idée peut créer une fake news et que cette fake news peut servir une idéologie fondée sur le droit à la haine.
Merci pour ce décryptage, Lefken. Je te laisse appuyer sur le bouton du répondeur. Je crois qu'on a un message.
Je clique.
Clique.
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô? Allô?
Syllab, la radio sauvage.
Oui, merci toute la team de 6 heures avant minuit d'avoir évoqué la série télévisée Les Portes du Vent, le 27 novembre dernier, sur les ondes. La série plaît, même en replay, j'ose dire. C'est chaud et chaleureux, en tout cas, de votre part. Merci, merci, merci. J'ai bien entendu et je relais votre appel à déposer d'ici jeudi 18 décembre les ingrédients alimentaires, l'événement chaud. Nous serons là, vraiment, chaud devant, à tout à l'heure, à 6 heures avant minuit. Merci. Je suis Sylviane, alias Mona, dans Les Portes du Vent. À bientôt. Au revoir.
Merci Sylviane. Et puis,
Ok, bah on y va, c'est la fin.
Merci Sylviane. À demain dans 6 heures avant minuit. Et merci Maud pour la technique.
La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.